Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Cyril Fournet de l'association J'aime la forêt. Alors J'aime, G-E-2-M-E, il aime la forêt aussi, mais là on va parler du GEMAGE, vous avez bien compris. Bonjour Cyril, comment allez-vous ?
Très bien, avec ce soleil un peu timide, mais sympa.
Voilà. On va passer une petite heure ensemble, on va découvrir votre projet qui est vraiment intéressant parce que, encore une fois, ça allie tradition et modernité parce que il y a aussi une tradition culturelle landaise très ancrée et aussi quelque chose qui touche l'industrie et l'économie. Donc ça, c'est très important. On va d'abord écouter le flash info national et international et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec Cyril de l'association J'aime la forêt. Alors Cyril, on commence toujours notre émission par une petite présentation personnelle de l'invité qui nous raconte un petit peu sa trajectoire personnelle qui l'a amené ce jour à ce micro, si vous voulez bien vous prêter à cet exercice.
Eh bien, donc Cyril Fournet, président de l'association J'aime la forêt d'Aquitaine. Alors bien sûr, les gens qui me connaissent savent que j'œuvre aussi sur Saint-Vincent-de-Paul en tant que premier adjoint de la commune. La récolte de résine, l'histoire du GEMAGE, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis toujours. Et l'association que j'anime avec beaucoup d'adhérents et beaucoup de bénévoles, puisqu'aujourd'hui, le travail que l'on a obtenu n'aurait pas pu se faire sans tous les bénévoles actifs qui viennent en forêt avec moi.
Oui. Et donc vous avez une trajectoire personnelle, professionnelle, etc. Puis un jour, vous avez dit qu'il y a quelque chose à faire par rapport au GEMAGE. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, ouais, je suis arrivé au GEMAGE par un autre biais. En fait, c'est dans le cadre d'une reprise d'études pour obtenir ma licence de droit, puisque bon, j'ai exercé pendant plus de 20 ans en tant que juge au prud'homme. Et dans ce cadre, on m'avait demandé de faire un travail sur l'évolution du droit. Et donc j'ai proposé, parce que ce qui se fait d'habitude, c'est de la lecture d'auteurs de droit. J'ai proposé, parce que ça me venait en tête, un travail sur l'évolution du droit et la lutte des gémeurs, puisqu'en fait c'est une évolution du droit qui a été très très lente pour ces métiers gémeurs. Et donc voilà, j'ai découvert que grâce à ce travail, où j'ai eu d'ailleurs une très bonne note, j'ai découvert qu'il y avait encore des gens qui bataillaient GEMAGE, et ça c'est dans les années 2010, avec d'autres acteurs, on s'est dit ce serait peut-être bien que nous, on essaye de faire quelque chose sur le sujet, puisqu'en fait, on a la matière sur place et, l'activité de GEMAGE, de récolte de résine, s'est éteinte à la fin des années 70, et sachant que la France avait été la première productrice de résine au monde dans les années 30-40. Et donc avec une activité qui employait des milliers de personnes sur le massif. Et donc là voilà, on était tous partants pour se dire il faut qu'on fasse quelque chose sur le sujet. Bon, on va créer humblement une association et en essayant de fusionner toutes les passions autour de ce projet. Et voilà, ça a démarré doucement et aujourd'hui, ça s'accélère.
Moi-même, en préparant l'émission et tout ça, j'ai vu le projet. Puis comment dire, ça semble, à un moment donné, l'intérêt semble évident. En plus, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'à la fois, vous faites vivre une tradition et aussi, on regarde vers l'avenir. Là aussi, vraiment, c'est le but, c'est vraiment d'exploiter aussi cette forêt. Alors, on a été les premiers à une époque, c'est vrai que le massif landais aussi a été la première ou la deuxième forêt en surface verte d'Europe, je crois.
Artificielle.
Artificielle. Je ne sais pas si on est toujours ce rang-là, je ne sais pas trop le classement. Bon, il y a aussi, apparemment, le GEMAGE, ça a été fait aussi par les Espagnols et les Portugais. Bon, c'est le soleil, c'est plutôt le sud.
Alors, justement, c'est intéressant que vous parliez de l'Espagne et Portugal, parce qu'en fait, moi, depuis des années, parce que j'ai eu la chance de participer à des projets des projets européens de relance du gemmage dans les années 2015 à 2020, juste avant le Covid. Et en fait, j'ai pu me tisser un réseau de connaissances et on travaille toujours actuellement en réseau avec des gemmeurs espagnols de Galice. De Galice et d'Asturie. Et tous les ans, on fait un voyage de travail et on partage nos travaux sur l'évolution d'une méthode de gemmage qui est beaucoup plus moderne que celle qu'ils connaissent encore aujourd'hui.
Oui,
puisque je rappelle que l'Espagne et le Portugal continuent à récolter la résine. Ils n'ont jamais cessé. 20 000 tonnes à peu près pour l'Espagne.
D'accord.
Et 5 à 7 000 tonnes pour le Portugal.
D'accord. Alors déjà, on en a parlé hors antenne. On va commencer par la première chose. On va dire de quoi on parle. La résine. Voilà. Donc alors, ça paraît bête, mais pour un Landais, il devrait savoir ce que c'est. Et non, ce n'est pas la sève du pain. On est bien d'accord. Qu'est-ce que c'est exactement que la résine?
Alors la résine, c'est une substance qui est spécifique à l'arbre. C'est-à-dire qu'il y a des canaux résinifères où circule la résine et il y a des canaux nutritifs où circule la sève. Et donc le Pinus pinaster, le pin maritime, a la faculté d'avoir une résine assez riche. Et donc dès que l'arbre sent qu'il est attaqué par un insecte, par des champignons ou une blessure, tout de suite, il injecte de la résine pour se protéger.
Oui.
Et cette résine n'est pas présente qu'en périphérie de l'arbre. Oui. Elle est aussi présente dans le bois.
Oui.
Tout le monde peut le constater.
Et
ceux qui ont des maisons avec avec du pain.
Oui, des fois, ça perle.
Ça perle toujours un petit peu, même quelquefois, 20 ans après, ça continue à perler parce que la résine est toujours présente dans ce bois.
Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, la gemme aussi, j'ai fait une recherche, j'ai bien vérifié. Effectivement, ce mot-là, il est à double sens en français. On emploie ça aussi pour les pierres précieuses. Un gemmologue, celui qui s'occupe des pierres précieuses. Donc, ça vient du latin, gemma. Et donc, c'est en référence aussi à la valeur et à la valeur et à la transparence, à l'aspect physique de cette résine qu'on a donné le nom de gemme. C'est pas un hasard, c'est que c'était un trésor à une époque pour plein de gens, la gemme.
Ah, absolument, ouais. Là, quand je parlais de milliers d'emplois, on avait à peu près 22 000 familles qui vivaient autour de tout ce que procurait la résine, à savoir son utilisation après distillation. Donc il y avait des distillations, il y avait des usines qui fabriquaient des pots, qui fabriquaient pas que des briques, qui fabriquaient des pots, des tuiles des pots qui existent toujours, les cutiottes. Et il y avait vraiment une activité économique importante autour du gemmage, c'est clair.
Ça fait vivre
les proportions de gemmage aux années les plus fastes de production aux alentours de 180 000 tonnes de résine.
Oui.
Et aujourd'hui...
Ah oui, on est loin de ce qui se fait en Espagne cumulé avec le Portugal.
C'est clair, la France était le plus gros acteur dans ces années, le plus gros acteur en tant que récoltant de résine. Ouais.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté en France?
Alors, il y a beaucoup de causes. Hein. Mais la principale cause, bien sûr, après les années 50... ça a été la concurrence, parce qu'avec un marché qui se mondialise, on se trouve en concurrence avec des prix de main-d'œuvre sur lesquels on ne peut pas lutter.
C'est sûr.
Pour l'information, aujourd'hui, les premiers producteurs de résine au monde sur le marché, la planète en consomme à peu près 1 250 000 tonnes par an de résine naturelle. Et les premiers producteurs sont toujours... le Brésil, la Chine et l'Indonésie.
Évidemment, la Chine n'était pas loin, cela, évidemment, dès qu'on parle de concurrence de
production. Tout à fait. Ouais. Alors, nous, on ne peut pas se comparer aux Chinois sur le produit, parce que la résine chinoise n'a pas du tout les mêmes qualités que la résine du pain maritime, puisque le pain maritime a cette faculté d'avoir une résine qui est... très fractionnable, avec toutes les qualités qu'on peut en exiger.
Ouais, d'accord.
Ce qui n'est pas le cas des résines chinoises.
D'accord. Et ça vient de la variété de pain?
Ça vient, je pense, oui, de la variété du pain. Nous, enfin voilà, ici, on travaille que sur du Pinus pinaster. Et bon, les Chinois, je ne sais pas ce qu'ils utilisent. Alors, au Brésil, ils ont une grosse production de résine parce qu'ils ont des rendements assez importants avec un pain qui s'appelle le pain Eliotti.
D'accord.
Mais cette résine n'a pas aussi les mêmes qualités que la résine du pain maritime.
D'accord.
Le pain Eliotti, ils arrivent à sortir 25 kg de résine par arbre. Et ce qui est... Mais les pins sont dédiés à la récolte de résine. C'est-à-dire qu'ils commencent à les gemmer à partir de 12 ans, 8 à 12 ans, et ils les coupent à 20 ans.
D'accord.
Mais le bois, ils ne peuvent pas en faire grand-chose parce qu'en fait, il est tellement chargé de résine, ce bois, qu'il n'est pas exploitable.
Ouais.
Mais voilà, le modèle économique, c'est de cultiver, voilà, au Brésil, pour la production de résine, c'est de cultiver le bois pour la production de résine.
Ouais, d'accord. Bon, on va faire une première pause, mais on va continuer ensuite notre discussion parce que c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve vraiment, même il y a de la technique, il y a de la culture et il y a une vision d'ensemble et de prévisions qui sont quand même assez intéressantes, je trouve. On va faire une première petite pause, on se retrouve ensuite. Et nous voilà de retour avec Cyril Fournet, donc J'aime la forêt. Donc on va parler encore un petit peu, après on va parler un peu plus voilà, de l'association et ses objectifs et voilà le filon entre guillemets que vous voulez exploiter. On parlait encore un petit peu technique parce que justement cette résine, voilà, la résine de pin, on l'exploite et on en fait quoi? Alors tout le monde connaît l'essence de térébenthine, je crois que tout le monde pense à ça, on retrouve un peu l'odeur et voilà. Et il y a aussi le colophane qui est en fait c'est ce qui est le plus exploité en fait dans la résine.
Alors oui, bien sûr, la résine naturelle telle quelle, on ne peut pas en faire grand-chose, si ce n'est faire de la poix, comme c'était utilisé à une époque, où on calfatait les bateaux avec.
Voilà, comme le goudron, quoi.
Voilà, tous les goudrons, aujourd'hui d'ailleurs, qui sont recherchés, les goudrons pour calfater les anciens bateaux, c'est un poil.
Ouais.
Je pense au bateau qui est en cale sèche à Anglette, l'Alcyone.
Oui.
Et qui a des problèmes. Donc là, nous, notre résine, on la récolte et on la fait distiller à Piolande, à Le Seine, à côté de la Brite. Piolande qui est partenaire de J'aime la forêt d'Aquitaine depuis le départ, depuis 2014. Il nous aide dans la logistique, mise à disposition de fûts pour la distillation. Et donc une fois distillé, on obtient deux produits. Alors nous, on obtient directement de l'huile essentielle de par la méthode et de par la distillation qui ne prévoit aucun ajout de matière, si ce n'est qu'une distillation douce et donc naturelle, pour obtenir de l'huile essentielle et de la colophane.
Voilà, ouais. Donc c'est ce qui reste en fait, hein, quand on fait une distillation, il y a une partie qui s'évapore, ou plusieurs, et puis il y a ce qui reste en bas, hein, pour ceux qui ont déjà fait des distillations au lycée ou au collège, ou de l'agnol. Voilà, et donc la colophane, c'est quelque chose qui est un peu plus solide, hein, c'est une sorte de pâte.
Et c'est plutôt les fûts,
poudre,
une fois que c'est distillé, fois que c'est mis en fût, ça durcit.
Ça durcit bien.
Ça durcit et vous êtes obligé de la casser au marteau piqueur, quoi.
Oui, ça ressemble à un peu de l'ambre, peut-être.
Oui, tout à fait.
Ouais, c'est ça.
Tout à fait, ouais. Et donc, avec cette colophane, on fabrique une pléiade de produits.
Ah oui.
Peinture, vernis, colle, qui sert dans énormément de...
Ah oui, il y a beaucoup
d'utilisation industrielle.
Ouais.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette matière, la colophane, on peut aussi l'obtenir d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en produisant du papier kraft, vous obtenez un résidu. Ce résidu, si vous le faites distiller, vous obtenez à nouveau de la colophane et de la térébenthine, ce qu'on appelle la térébenthine de papeterie.
Oui.
Mais bien sûr, elle n'a pas du tout les mêmes qualités que la qualité de la térébenthine de J'aime.
Oui. Notamment l'odeur, déjà. Déjà, avec l'odeur, on doit voir la différence. Déjà,
ça, c'est clair. Nous, on a la chance d'avoir une huile essentielle avec des alpha-pinènes et bêta-pinènes très fortes. Donc, il y a une très forte odeur.
Oui. Qu'on connaît tous, forcément.
Ouais, qui est très agréable. J'ai entendu quelqu'un qui a été incommodé par cette odeur.
Oui. Et donc, oui, alors le colophane aussi, c'est vrai que ça utilise énormément de choses, pour des choses qu'on n'imagine pas. Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler, bon, parce que voilà, on aime bien la musique à Souvenir FM, que c'est énormément utilisé par pas mal de musiciens. C'est utilisé pour les instruments à cordes frottées, tels que violon, violoncelle, etc. Mais aussi, parce qu'on aime bien la tradition aussi, la vielle à roue. Hein, la vielle à roue, il y a un disque qui tourne. Et pour que ce disque fasse vibrer la corde qui est entourée avec un petit peu de coton, il faut mettre de la résine dessus, évidemment de la colophane. Donc c'est sûr qu'on a eu des tas de gens qui ont joué des instruments landais, qui ont utilisé de la colophane maison, récoltée tout à côté de chez eux, ou voire par eux-mêmes. Hein. Donc ça, historiquement, c'est sûr que ça a été utilisé par beaucoup de gens dans les Landes.
Oui, oui, d'ailleurs à ce propos... On est en train de travailler sur un nouveau projet justement d'utilisation de la colophane. Donc il y a plusieurs années qu'on travaille avec un luthier de Bordeaux, Tony Echavidre, qui fabrique des violons et des contrebasses. Et en fait, il nous achète depuis quelques années de la colophane oxydée. Alors oxydée, c'est-à-dire que cette colophane est restée à l'air libre, à la pluie et au soleil pendant 9 mois. Parce qu'en fait, il fabrique un vernis. D'ailleurs, il donne des cours de fabrication de vernis pour les instruments de musique. Et il est obsédé à vouloir reproduire ce fameux vernis qui a servi à la conservation des Stradivarius.
Oui, c'est forcément, c'est le Graal.
C'est le Graal, tout à fait, ouais, parce que ce vernis avait vraiment des qualités extraordinaires.
Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il joue dans le...
Et donc, nous travaillons avec ce luthier de Bordeaux à la mise en vente sur le marché d'une colophane destinée aux archers. Et ce produit va s'appeler le Pix Sonora. Et il sera emballé dans... Parce que le packaging compte beaucoup.
Eh ben, évidemment, c'est, je peux le dire parce que je l'ai devant les yeux. C'est du liège. Évidemment. Voilà. Non, mais ouais, c'est bien.
C'est original.
C'est logique. C'est, logique.
C'est en liège. C'est l'entreprise Aglolux que tout le monde connaît de Souston, qui date de 1929. Et donc, cette colophane a une forme originale.
Oui, ça ressemble à un cannelé.
Voilà.
Oui, c'est vrai.
C'est d'ailleurs que si... on place ce cannelé avec d'autres cannelés, on voit pas la différence.
Sauf quand on mord dedans, hein, parce que je crois que ça va faire le même effet. Hein.
Voilà, voilà.
Après, bon, c'est bien, c'est dans la logique aussi de votre démarche, et le côté économie circulaire, c'est des ressources qui sont là, pourquoi aller chercher ailleurs quand on a tout sous la main, en fait.
Ah ouais, complètement, ouais. Donc là, bon, l'association qui a des moyens financiers limités, on va sans doute lancer une action de crowdfunding pour nous aider à développer ce produit. Et voilà, le populariser, voilà, ça pourra nous servir à développer toutes les actions que mène J'aime la forêt.
Oui, bien sûr. Et puis ça, voilà, c'est un côté aussi prestige, hein. C'est-à-dire sur l'image, peut-être qu'on aura des grands violonistes du monde entier qui diront « Ah, moi, j'utilise le colophone de J'aime la forêt ». Et là, ils diront « Waouh, la classe, quoi hein, !» On ne sait jamais, on ne sait jamais.
Oui, oui, on ne sait jamais, oui, oui. Ouais. On ne s'interdit rien.
Mais oui, oui.
On fonctionne humblement et voilà, chaque succès, on les prend et... quelquefois, c'est ça, c'est la recherche et le développement, quelquefois, c'est des désillusions.
Oui, ça peut être ingrat.
Et bon, ça ne nous arrête pas, voilà.
Très bien. Bon, on va faire une autre pause un peu plus longue, et puis on aura une partie, vous allez nous parler un petit peu, justement, de vos découvertes, vos travaux, et du modèle économique que vous essayez de mettre sur pied, et des gens qu'il faut convaincre et emporter avec vous, mais je crois que la vague est partie dans le bon sens, d'après ce que j'ai compris.
Merci.
On se retrouve après ça, et le petit flash info local, là, tout de suite. Voilà, c'était les violons de Jean-Jacques Goldman. Un petit clin d'œil à la colophane, évidemment.
Ouais, on va pas louper. C'était prévu, hein.
Ouais, voilà, bah, bien sûr, c'était prévu, tout à fait. Et ah oui, alors ce dont ne se vante pas notre invité, Cyril Fournet, c'est qu'il est un petit peu inventeur quand même. Parce que à un moment donné, on a parlé hors antenne, de vouloir relancer le gémage, oui, mais autrement et mieux, c'est-à-dire de meilleurs rendements, etc. Parce que si on veut que ça redevienne entre guillemets une industrie performante, il faut augmenter les rendements. Et vous avez donc expliqué hors antenne pas mal de techniques de gémage. Alors la classique, hein, c'était on filait un coup de upshot, hein, on blessait l'arbre, on plantait le pot en terre cuite et on mettait. Alors il faut un activant, c'était de l'acide.
Acide sulfurique, oui, voilà. Tout à fait.
Et je me suis laissé dire que c'était pas bon pour les écureuils.
Ah non, c'est pas bon ni pour les écureuils ni pour les cigales. Hein. Donc voilà. Tout le monde sait que ça a eu un effet très néfaste sur cette population.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Donc nous, quand on s'est intéressé à la relance du gémage, on s'est interdit bien sûr d'utiliser ce qu'on appelle un activant, parce que je le précise pour les auditeurs, on peut pas faire de gémage sans activant. C'est-à-dire, on peut faire du gémage. On va faire couler la résine pendant une semaine, mais la résine est extrêmement efficace. Mmh. C'est-à-dire que si vous faites une plaie à un arbre, au bout d'une semaine, ça colmate. Mmh. C'est toute la fonction de la résine naturelle. Oui. Donc l'objectif, c'est d'essayer de faire couler la résine le plus longtemps possible. Et l'acide, elle brûlait la plaie. Et donc au lieu de passer toutes les semaines comme il le faisait auparavant, dans les années 50, il passait tous les 15 jours parce que la rainette, ce qu'ils utilisaient, c'était la rainette. Mmh. Ils pulvérisaient cet acide là qui était dilué à 20%. Et donc ça brûlait la plaie et ils gagnaient deux fois plus de temps parce qu'en fait, au lieu de passer toutes les semaines, ils passaient toutes les deux semaines. Mmh. Donc nous, on s'est interdit bien sûr de travailler avec un activant, mais on s'est quand même servi de l'acide pour comparer. Pour comparer dans nos travaux la mise au point d'un autre activant.
Et
et parce qu'en fait, l'acide était extrêmement efficace. Et donc, pendant plusieurs années, effectivement, j'ai fait des comparatifs d'essais d'activant avec l'acide. Voilà. Jusqu'au jour où on a découvert, mis au point, un activant qui est aujourd'hui en phase d'être breveté.
Mais voilà, c'est pour ça qu'on n'en dira pas plus sur l'activant lui-même.
Voilà.
Oui. Donc, et puis aussi le procédé. Vous avez mis au point aussi un procédé où il est en train d'être mis au point, validé aussi.
Alors, pour refaire la petite histoire de nos travaux, en 2016, moi j'ai commencé à faire les premiers trous dans le bois. Parce qu'en fait, il y a une technique qui a été inventée en 1910, ça ne date pas d'aujourd'hui, par un Américain qui s'appelle Gilmer, qui lui s'est intéressé à aller chercher la résine dans le bois. Et donc, il a mis au point la première perceuse de l'époque avec une manivelle. Et en fait, il a mis au point cette technique, Gilmer, et qui consiste à aller chercher la résine dans le bois et pas en périphérie. Et donc, moi, dès le départ, je me suis intéressé à ça en 2016. En faisant des trous, en fabriquant des poches avec ma femme devant la télé, on a fabriqué des milliers de poches et j'ai percé des milliers d'arbres. Alors bien sûr, c'était des arbres qui étaient destinés à l'éclaircissage, donc qui partaient en bois de papeterie, donc il n'y avait pas de souci pour faire des trous dedans.
Ouais, c'est vrai.
Et donc on s'est aperçu que cette technique, d'ailleurs ce qui a permis que les premiers bénévoles viennent me rejoindre, ils se sont intéressés aux travaux que je menais dans les bois le soir après le boulot. Et donc, c'est ça qui a aussi changé la vitesse d'évolution de nos travaux. C'est que on s'est aperçu que ça valait vraiment le coup d'aller chercher la résine dans le bois parce qu'il y en a. Il y en a. Alors après, les problèmes qu'on a pu rencontrer, on les a résolus au cours de plusieurs années de travaux. Parce qu'en fait, bien sûr, chercher la résine dans le bois, ça nécessite de mettre au point un objet qui puisse se mettre dans le trou, relié à une poche plastique. Donc le premier objet que j'ai utilisé, moi, c'était des raccords que je trouvais dans le commerce, des raccords d'irrigation. Ensuite, grâce à l'aide d'une entreprise qui s'appelle EcoloCup de Souston, on a mis au point un prototype qui était beaucoup plus facile à enlever, qui était conique. Mais on avait toujours cette problématique de bouchage. Et un jour, c'était en 2023, on a mis au point, alors avec un montage bricolage, un montage qui faisait qu'on utilisait la méthode périphérique, c'est-à-dire un écorçage périphérique, et le trou qu'on réalisait, donc le trou restait libre. Et donc là, on s'est aperçu tout de suite que c'était très intéressant de travailler sur cette piste.
Le rendement est forcément meilleur parce que vous récupérez en plus de la résine périphérique celle qui est dans le bois.
Tout à fait, tout à fait. Alors bien sûr, tout ça c'était corrélé à la mise au point d'un activant qui soit efficace. Et donc ça s'est fait en même temps. Et donc l'activant nous a permis, enfin la mise au point qui a pris quand même pas mal d'années de cet activant, corrélé à l'évolution de de l'objet qui relie l'arbre au contenant, voilà, la combinaison des deux a fait que on augmente, enfin là c'est la constatation de 2025, on augmente très fortement le rendement en diminuant très fortement le travail.
Oui, ça c'est pas mal ça.
Voilà.
Ça ferait rêver n'importe quel industriel ça, cette phrase.
Tout à fait. Ouais. Alors pour les adhérents de GEM, que je salue au passage s'ils écoutent, voilà, ils ont le résultat de tous ces travaux sur le document qu'on a produit cette année 2025.
Voilà.
Avec le concours de l'entreprise Aldean Infographie, voilà, qui nous aide à produire des objets de communication de qualité.
Voilà, très bien. D'ailleurs, je l'ai eu. Et alors, pour parler concrètement, hein, donc le but du jeu pour vous, hein, donc c'est aussi d'aller voir les gens. On dit, vous savez que vous avez un trésor chez vous parce que vous avez des arbres. Donc on en a parlé aux antennes, mais les auditeurs le savent en général qu'il y a beaucoup de privés, hein, de propriétaires privés. Ouais. Les forêts landaises, c'est en grande majorité. Et donc vous essayez aussi de dire aux gens, vous voyez vos arbres que vous avez sur votre terrain. En plus, on peut faire du gémage. Parce que je veux dire, vous pourriez souffrir d'une image un peu passéiste parce que on va parler d'une tradition ancestrale. Sauf que là, on est dans la modernité. Vraiment, il y a vraiment une issue économique au bout de l'idée de ce que vous faites.
Ah, complètement. Alors après, nous, on travaille beaucoup avec tous ceux qui font des démonstrations de gemmage à l'ancienne, qui s'intéressent aussi à nos travaux.
Oui, oui.
Je parle de la maison de la gemme de l'Esperon, les copains de Biscarros, de la Dufu. Voilà, nous ce qu'on souhaiterait humblement, c'est de se dire, on a la matière sur place. On va essayer de mettre au point une méthode performante pour essayer de recréer un marché de niche, ce qui serait assez intelligent sur le sujet.
Oui.
C'est-à-dire que si on pouvait avoir une production locale, pour souvent une utilisation locale, ça serait de bon sens.
Ben oui, c'est ça, parce que là, on est dans l'économie circulaire. Il y a aussi une démarche, forcément, qu'on le veuille ou non, en plus, de fait écologique, parce que, ben voilà, donc le carbone, etc., voilà, on utilise les arbres qui sont là. Enfin, je veux dire, il n'y a que des avantages.
Ah, bien sûr, il n'y a que des avantages. Après, il reste encore du travail, bien sûr,
hein, ouais.
Ça, c'est clair. Mais bon, grâce aux nouvelles compétences qui sont venues nous rejoindre, je trouve que, voilà, l'évolution de nos travaux progresserait beaucoup plus rapidement que j'aurais pu l'espérer à une certaine époque.
Ouais, mais c'est bien. Et donc, vous avez beaucoup de partenaires et des gens qui vous aident, hein, mis à part les bénévoles de l'association elle-même. Vous êtes en coordination. On a parlé des Espagnols et des Portugais aussi. Et puis, vous avez, je crois, des contacts, que ce soit à l'Europe ou dans le département, que sais-je.
Ah oui, alors, vous avez je ne vais pas oublier de citer le département, parce que depuis 2014, le département répond à nos besoins. Tous les ans, on monte un dossier de subvention et le département est présent et nous aide. Ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous allez sur notre site internet, J'aime la forêt d'Aquitaine, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs vidéos qui ont été réalisées, dont une qui a été financée par le département.
Oui. Alors, on va faire notre dernière pause. On va écouter encore un petit peu de musique. On se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission. C'est parti. Et nous voilà pour la dernière partie de cette émission. Donc, avec Cyril Fournet de J'aime la forêt. On parlait, oui, dans ce procédé. Ce procédé est au point, ou en tout cas être sur le point d'être validé définitivement. Cette résine, donc, voilà, les gens, on va pouvoir la récolter. Qui n'est pas récolté actuellement, puisque cette industrie s'est arrêtée quasiment, hein, à part quelques personnes qui font encore vivre cette tradition. L'avenir, pour vous aussi, c'est une évolution de votre association, parce que voilà, vous avez des produits, vous avez une huile essentielle, etc., vous avez des projets d'évolution.
Alors, bien sûr, hein, on a la capacité aujourd'hui de travailler dans multiples directions, l'investigation commerciale est importante parce qu'en fait, on peut récolter de la résine, mais on ne sait pas quoi en faire, c'est-à-dire s'il n'y a pas de demande, c'est un petit peu compliqué. Donc, on investigue commercialement pour savoir qui serait intéressé pour acheter. Alors là, le travail s'est un petit peu focalisé sur l'huile essentielle, puisque c'est un des produits le plus facilement valorisable.
Ouais.
Et pour nous à disposition rapide puisque on a directement de l'huile essentielle. Mais il reste voilà d'autres pistes à investiguer, notamment celle de la colophane, parce que bon, la colophane c'est beaucoup plus difficilement valorisable. Pour vous donner un ordre d'idée, la colophane ça se négocie entre 1,30€ et 1,70€ le kilo au niveau mondial. Et donc si on n'arrive pas à trouver une application valorisante de la colophane, voilà, c'est un petit peu plus difficile d'avoir un modèle économique qui tienne la route. Mais bon, l'huile essentielle nous permet de pouvoir imaginer la construction d'un modèle économique voilà, qui réponde à des échanges de commerce, ce que ne peut pas faire une association.
Oui, bien sûr. Alors, c'est le modèle un petit peu, on en a parlé en antenne, mais on a reçu il n'y a pas très longtemps le moulin de Bénesse.
Tout à fait.
Et c'est ce qu'ils ont fait pour exploiter ce moulin, moudre la farine, etc., etc. C'est ce genre de modèle économique que vous voulez utiliser ?
Bien sûr, ouais. Moi, depuis 2018, j'investigue sur le sujet. Savoir quel serait le meilleur modèle économique qui puisse répondre au passage d'une association à une structure sociétaire. Et donc, la SCIC et la Société coopérative d'intérêt collectif est vraiment le modèle qui correspond à ça, puisque à l'intérieur d'une SCIC, il peut y avoir des collectivités, des bénévoles, des professionnels, des entreprises, et chacun compte pour un au conseil d'administration.
Oui.
La philosophie d'une SCIC, c'est d'abord un modèle social et économique.
Oui, et puis ça, voilà, social et économique, bon, ça, on retrouve les valeurs que vous avez, dont vous avez parlé dans votre parcours professionnel et personnel avant. Hein, donc, vous êtes bien débrouillé quand même, parce que, l'air de rien, quand on vous écoute et on voit la documentation, etc., vous êtes là quand même, vous avez fait beaucoup de choses, en fait, un peu touche à tout, inventeur, vous avez fait des démarches commerciales, vous avez intéressé la partie légale, la partie sociale, vous êtes...
J'ai pas de mal, le problème c'est que j'ai pas de mal à être passionné par un peu tout.
Oui, voilà, vous avez...
Mais bon, on n'a qu'une vie et donc...
un peu hyperactif, hein, quand même.
Oui, c'est comme dit ma femme.
Non, mais c'est bien, moi je vous admire, hein, parce que c'est vraiment engageant, c'est... Voilà, cette méthode-là, et voilà, on peut imaginer effectivement que...
Oui, cette méthode GELAF, nous on tient absolument au nom, parce dans l'avenir, tout le monde se souvient que Monsieur Hugues a créé la méthode Hugues, et nous on souhaiterait que demain, si la méthode GELAF se généralise, qu'elle porte au moins le nom de l'association.
Alors, GELAF, ça veut dire quoi ? C'est un
GELAF, c'est J'aime la forêt d'Aquitaine. La forêt, voilà.
Voilà, c'est ça, GELAF. Voilà.
On a déposé d'ailleurs une marque, la marque GELAF, on l'a déposée. En fait, tous les embouts, enfin, tout le matériel et le sigle GELAF.
Oui, bien sûr. Ouais. Bah, il faut, hein, parce qu'effectivement, vous avez mis au point des techniques, des produits, un procédé, etc. Il faut le protéger, puisque le but du jeu, c'est aussi que ça devienne rentable.
Tout à fait, alors on n'a pas les moyens de déposer des brevets, mais pour l'instant c'est en cours avec des dépôts d'enveloppes numériques.
Voilà, ouais. C'est vrai que les brevets, surtout s'ils sont à l'échelle mondiale, c'est...
Non, mais c'est même pas imaginable.
C'est vrai, quand on s'est jamais penché, on n'imagine pas le prix que ça peut revenir.
Ça sera local, voilà. Enfin, national.
Ce qui est déjà pas mal. Mais bon, faut se méfier des Chinois, comme toujours.
Ah non, mais c'est clair. C'est clair. Les Chinois, d'ailleurs, qui s'intéressent à ce que font les Espagnols actuellement. C'est les gemmeurs qui m'ont fait remonter cette information.
Alors, vous vouliez aussi utiliser du crowdfunding, peut-être, pour financer votre
projet ? Oui, merci de le rappeler, parce que je ne m'en rappelais plus. Oui, c'est pour notre produit Pix Sonora, le produit, la colophane à usage... destination des musiciens pour les archers. Et donc, comme on n'a pas les moyens de faire toute la publicité qu'on souhaiterait, notamment avec la création d'un site internet dédié à Pix Sonora, on souhaiterait faire du crowdfunding pour nous aider à financer le démarrage. Bon, déjà, on fait un autofinancement sur la fabrication des boîtiers.
Ben, c'est un bel objet. D'ailleurs, moi, j'essaierai de mettre une photo avec la photo de l'invité pour le podcast, pour que vous voyez l'objet lui-même, hein, parce que, évidemment, c'est du Liège, de la colophane néerlandaise. Bon, là, on est vraiment dans le local, hein, on ne peut pas faire mieux.
Tout à fait, ouais.
L'idéal, ce serait de trouver un violoncelliste ou un...
De Renault.
Un violoniste qui endorse la marque et qui puisse avoir le t-shirt ou un truc, la marque et dire voilà, moi j'utilise la colophane.
Tu es de Saint-Vincent-de-Paul, parce que bon, principalement on extrait notre résine de Saint-Vincent-de-Paul. D'ailleurs, je fais un peu de publicité en passant pour notre huile essentielle de Saint-Vincent-de-Paul qu'on offre pour tous les nouveaux adhérents.
Très bien. Alors moi, je voulais faire juste une petite parenthèse personnelle, je me permets. Voilà, on a reçu les archives départementales il n'y a pas très longtemps. Effectivement, j'ai utilisé le moteur de recherche. J'ai fait comme beaucoup de gens font, j'ai tapé mon nom. J'ai trouvé mon grand-père qui est né d'Endurant Jean, dit Élie, en 1895 à La Britte, et il était résigné.
C'était une des capitales du gémage, La Britte.
C'est vrai que c'est une tradition. Voilà. Il y a beaucoup de Landais, on n'a pas leur antenne, qui, dans leurs ancêtres, ont des gens qui ont vécu grâce au gémage.
Absolument,
voilà.
Ouais. D'ailleurs, ces gens qu'on rencontre, nous, souvent en conférence, qui sont extrêmement heureux qu'on puisse faire quelque chose sur le sujet. Ouais.
Voilà, très bien. Merci beaucoup Cyril d'être venu nous parler de ça, c'était vraiment passionnant. Je pense qu'on aurait pu durer encore une heure de plus, sans souci, parce que c'est vraiment intéressant et c'est marrant. D'habitude à midi, avec les invités, on discute, j'ai l'estomac qui grouille parce qu'on parle de nourriture, et là, depuis une heure, j'ai dans le nez une odeur de résine que je m'imagine dans la forêt avec les cigales et cette odeur de résineux qui est caractéristique.
C'est clair que c'est un excellent, c'est un lieu magique, la forêt, et c'est un beau bureau.
Alors, c'est une belle parole de fin. Mais merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous pour l'accueil.
Au revoir.
Au revoir.